Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Patience Ngalula à la présentation.
Au sommaire, face à l'occupation continue des localités par le rebelle du M23 au Nord Kivu, la société civile demande à l'armée de poursuivre l'offensive. Amélioration du pouvoir d'achat de la population, les gouvernements s'y attellent. L'exécutif envisage notamment la réduction des taxes et redevances, mais aussi la lutte contre les tracasseries pour y arriver. Notre invité est le coordonnateur du groupe Compassion aux orphelins de Goma au Nord Kivu. Sami Munganga parle de la campagne dénommée Yatima Shuleni, lancée par sa structure dans le but de réunir des moyens matériels et financiers pour préparer la rentrée scolaire 2024-2025 en faveur de quelques enfants orphelins. Bonjour à tous. Au Nord Kivu, la coordination provinciale de la société civile Force Vive exige la relance des opérations offensives contre le M23 RDF. Elle s'est ainsi exprimée à travers un communiqué officiel rendu public mercredi 7 août à Goma. Le président de cette structure déplore, entre autres, la conquête par la rébellion du M23 de plusieurs autres localités pendant la trêve humanitaire de 30 jours observée par l'armée congolaise, laquelle trêve a été suivie par un accord de cessez-le-feu. Écoutons John Banyene dans ses propos recueillis par Bernardin Nyangui.
On vit la dégradation rapide de la situation sécuritaire due aux avancées du M23, RDF, AFC. La société civile Force Vive recommande au chef de l'État et commandant suprême de FRDC de mettre fin au cessez-le-feu unilatéral observé par les FRDC et ordonner urgemment l'organisation des opérations militaires généralisées sur toutes les lignes de front en vue de reconquérir tous les espaces sous l'emprise de l'ennemi. Les informations démontrent que c'est sous la trêve humanitaire du 24 au 31 juillet 2024 que le M23 a conquis des entités aux environs du village de Kaira, en chefferie de Bachali, en territoire de Massis, mais aussi la prise des villages de Ngwenda, Kisharo, Nyamirima, Ishasha et Nyakakoma du 2 au 6 août 2024. Cet aspect expose déjà Butembo et Beni aux avancées du M23 RDF qui pourraient se servir du lac Édouard à Nyakakoma et Vichumbi pour y parvenir.
Du côté du Tanganyika, les gouverneurs lancent un ultimatum aux groupes armés qui écument la province. Dans une communication ce mercredi à la population, Christian Kitungwa leur donne 30 jours pour déposer les armes. Et dépasser ces délais, les récalcitrants seront contraints de les faire par la force, précise-t-il. On écoute Christian Kitungwa dans cet extrait choisi par Paulin Munanga.
L'ère de l'impunité étant révolue, j'invite toutes les forces négatives ainsi que leurs commanditaires qui sévissent dans la province à déposer leurs armes, et c'est en déant 30 jours, et à revenir à la raison. Passé ces délais, les forces de l'ordre utiliseront tous les moyens à leur disposition pour anéantir les récalcitrants. S'agissant particulièrement de l'insécurité, comme dans le cas récent du village Tumbwe, où accompagné de membres du Conseil de sécurité, pour m'enquérir de la source, le dégât humain et matériel causé par la faction Bitonto. J'ai apporté une assistance en vivres et en non-vivres.
Amélioration du pouvoir d'achat de la population, je le disais au sommaire, les gouvernements envisagent la réduction des taxes et redevances, mais aussi la lutte contre les tracasseries. Ces premières mesures envisagées par l'exécutif ont été examinées au cours du Conseil des ministres restreint, présidé hier mercredi par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Selon les porte-parole du gouvernement, outre ces mesures, les membres du gouvernement ont adopté les projets de prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. D'autres détails avec vous, Blaise Makassi.
Le président Félix Tshisekedi, qui conduisait cette réunion, a abordé avec les membres du gouvernement les premières mesures prises qui concernent essentiellement la baisse des prix des denrées de première nécessité. Ses principales denrées ont été identifiées et des mesures ont été proposées, notamment ce qui concerne la réduction des taxes et redevances, ainsi que la lutte contre les tracasseries dans différents secteurs, a relevé Patrick Muyaya. Les ministres de l'économie nationale et des finances sont appelés à harmoniser les vues pour que ces premières mesures soient adoptées formellement au prochain Conseil des ministres. Rappelons qu'au cours du deuxième Conseil des ministres du gouvernement souminois, le président de la République avait souligné la nécessité de stabiliser la monnaie nationale pour préserver le pouvoir d'achat de la population. Il avait notamment demandé urgemment la réévaluation des mesures prises pour stabiliser le taux d'échange et relever les sociales des Congolais. Parmi ces mesures figurait la protection et le renforcement du pouvoir d'achat des Congolais mis à mal par la situation qui prévaut sur le marché d'échange.
Et puis, publication hier mercredi tard dans la nuit de la liste provisoire retenue aux différents postes du bureau définitif du Sénat. Aucune candidature déposée au bureau de réception n'a été rejetée. L'examen des candidatures s'est déroulé sous une très forte tension suite à la tentative d'invalidation de certaines candidatures. Certains proches de Jean-Michel Samalukonde commençaient déjà à dénoncer sur les réseaux sociaux la tentative d'invalidation de leur candidat par les pro-UDPS. Après de longues heures de discussion, la commission a convenu la validation de toutes les candidatures afin que les élections départagent tous ces candidats. Michel Kifindangoy.
C'est une vraie bataille qui s'annonce à l'élection des membres du bureau définitif du Sénat. Pour 7 postes disponibles, 19 sénateurs sont dans la course. Alphani Idrissa de l'UDPS, Jonas Munkamba des alliés de l'UDPS et Samalukonde de la B vont s'affronter pour la présidence du Sénat. La première vice-présidence va mettre aux prises José Kalala et Christophe Lutundula, ancien vice-premier ministre des Affaires étrangères. À la deuxième vice-présidence, Modeste Bahati Lukwebo, président sortant du Sénat, doit faire face à la candidature de Corneille Isengue et Eustache Mouanzi. Au poste des rapporteurs, Ivan Kankonde s'affrontera avec Jean Bamanissa, Crispin Kalumba et Nefertiti Ngundianza. Au poste de rapporteur adjoint, qui revient à l'opposition, Salomon Idi Kalonda devra faire face à Jean-Claude Baende. À la question, Carole Aguito est en course contre Moïse Ekambo et Sylvain Mukengeshai. Et à la question adjoint, Isabelle Kabamba fera face à la candidature de Pascal Omana.
En Ituri, les habitants de 4 villages déguerpis depuis l'érection de la réserve de la faune à Okapi en 1992 réclament de retourner dans leurs entités dans la chefferie de Wale Sekaro dans le territoire de Mambasa. Une délégation du ministère national de l'Intérieur a clôturé mardi une mission sur place en vue de décanter ces conflits des limites qui persistent depuis 22 ans entre les communautés locales et la RFO. Selon les constats faits par cette délégation mixte, des traces de l'existence humaine sont encore visibles dans les milieux. Isaac Remoyope.
Plus d'un millier d'habitants des 4 villages de Wale Sekaro vivent depuis 22 ans dans des localités voisines. Ils ont été déguerpis de leurs milieux d'origine pendant l'érection de la réserve des faunes à Okapi en 1992, ce qui était à la base des conflits permanents entre la population locale et les responsables de ces patrimoines mondiaux. Ces conflits étaient émaillés parfois de violences, dont les tueries des 12 Okapi vers 2012 par un groupe armé local des Mai Mai. Une délégation du ministère de l'Intérieur s'est rendue sur place pour évaluer les revendications des communautés locales qui soutiennent que leurs parents ont vécu dans ces villages avant l'érection de cette réserve. Des arbres plantés, des mines d'or qui étaient exploitées par leurs ancêtres ont été retrouvés sur place. Pour ces autochtones, le gouvernement doit redéfinir les limites de la RFO et faciliter leur insertion dans leur milieu d'origine. Luc Malembe, un membre de cette délégation, pour le compte de la communauté locale.
Nous, on a complété pour que les autorités laissent la rentrée dans leur village. Encore que dans la RFO, il y a des endroits où habiter, c'est une réserve, c'est pas vous avez d'ailleurs des grands centres de négoces comme Bazenaïdo, comme et tout le monde qui sont en pleine réserve. Mais pourquoi quand ça devient ce genre de bâtiment-là, on leur étudiera?
Le ministère national de l'Intérieur ne s'est pas encore prononcé sur l'issue de ces litiges fonciers qui persistent depuis des décennies. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, près de 200 opérateurs pédagogiques du préscolaire venus des différentes provinces de la RDC et du Congo-Brazzaville se préparent pour affronter la rentrée scolaire 2024-2025. À l'issue d'une session de formation de 3 jours à Kinshasa, ils ont suivi des modules nécessaires axés sur les thèmes « les coulisses de la rentrée scolaire », c'est-à-dire renforcer les capacités des éducateurs en vue de bien accueillir et encadrer les élèves du maternel à la prochaine rentrée scolaire. Par ailleurs, hier, à la clôture de cette formation, les participants ont évoqué les problèmes de l'indisponibilité du programme d'enseignement préscolaire. Ce programme n'a pas été vulgarisé dans bon nombre des provinces éducationnelles, faute de financement. Des détails avec Askin Zigbia Tayoro.
Le langage a été clair au niveau du Service national de formation des enseignants, CERNAFOR. Il n'y a que 18 provinces éducationnelles sur 62 qui ont reçu officiellement le programme national d'enseignement préscolaire. Ce programme a été financé par la Banque mondiale en vue d'améliorer la qualité de l'éducation des enfants du maternel. Il est défini également dans ce programme 21 normes à suivre par les opérateurs pédagogiques pour rehausser la qualité de l'enseignement préscolaire. Blanchard Mbuelo, l'un de formateur.
Ce que l'enfant vit à la maison, les répercussions sont à l'école. Et ce que l'enfant trouve à l'école, les répercussions aussi sont au niveau de la maison. Il faut qu'il y ait une complicité entre école et la famille.
Le participant appelle le gouvernement à soutenir la vulgarisation de ce programme préscolaire dans les autres provinces éducationnelles n'ayant pas encore formellement reçu la formation sur les 10 programmes. Il faut noter que les travaux de ces assises ont été organisés par l'Organisation mondiale de l'enseignement préscolaire OMEP en collaboration avec l'Agence pour la promotion de l'enseignement APE, une activité qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la 3e édition de la grande fête du préscolaire qui aura lieu le 10 août à Kinshasa.
Au Kasaï oriental, la société minière de Bakwanga Miba a acquis un premier lot d'engins roulants destinés à la relance de ses activités minières. Ils ont été acquis grâce au paiement par l'État de 2 millions de dollars sur la créance vis-à-vis de la minière de Bakwanga. Ces engins ont été présentés officiellement ce mardi au gouverneur de province, aux membres du Conseil provincial de sécurité, aux agents et travailleurs de la société minière de Bakwanga Miba, au chef traditionnel de Bakwanga, en présence d'un représentant du ministre du portefeuille en mission en Boujimaï. Des explications avec Esther Ndalafina.
Au cours de la cérémonie, Corneille Mbikaï, directeur technique, a énuméré la liste des outils de production présentés aux autorités provinciales.
Nous avons une pelle Volvo, une chargeuse, 2 camions Ben, une camion citerne de marque Tata. Nous avons les véhicules utilitaires, 2 bus Tata, les 5 pick-up Mahindra.
Docteur André Kabanda, directeur général de la MIBA, a invité le personnel à se mettre au travail.
Dès demain, commencez le travail de production, car c'est seulement par la production et les recettes qui en découleront que nous pouvons résoudre progressivement les problèmes.
Jean-Charles Okoto, président du conseil d'administration de la MIBA, a mise en garde des agents et travailleurs contre les antivaleurs.
Tout vol, toute destruction méchante, toute soustraction frauduleuse seront sévèrement sanctionnés. Nous savons que certains d'entre vous sont des convenances avec des prédateurs qui opèrent au polygone. Tout doit immédiatement cesser.
Le gouverneur de province, Jean-Paul Bouébouékapo, a demandé aux agents de bien travailler.
Ne vous fatiguez pas, vous avez déjà supporté la souffrance pendant beaucoup d'années.
Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
Du Kasaï oriental, rendons-nous au sud Kivu, une personne morte et 2 blessés graves, c'est le bilan de l'écoulement d'un tas de terres au quartier Nkafu, en commune de Kadutu, dans la ville de Bukavu. Toutes les victimes sont des ouvriers au service de la société de construction Sokok. L'incident est survenu hier sur la route nationale numéro 2, au lieu où la société congolaise de construction Sokok exécute les travaux de modernisation sur l'axe Bukavu-Walungu. Le bourgmestre de la commune de Kadutu, Jean-Pierre Mizinzi, donne des précisions au micro de Jean Kassami.
En fait, pour ce qui est de l'incident de hier à Karale, en fin d'après-midi, il s'agissait d'un terrassement qu'on était en train d'effectuer sur la nationale numéro 2 en vue de la construction d'un mur de soutènement pour soutenir cette route d'intérêt national. Malheureusement, comme le talus est très haut, il y a eu un éboulement de sol qui a enseveli 3 personnes du Dikou. Des 3 personnes, 2 ont été sauvées, pendant qu'une des personnes est décédée sous les gravats qui est tombé sur lui. Voilà un peu c'est ça l'incident malheureux qui s'est produit hier en fin d'après-midi.
Actualité internationale.
Le Niger délivre un passeport diplomatique à l'ex-influenceur anti-occidental Kemi Seba. Quelques semaines après avoir perdu sa nationalité française, l'influenceur anti-occidental Kemi Seba a reçu un passeport diplomatique du Niger. Le polémiste d'origine béninoise l'a lui-même annoncé sur ses réseaux sociaux en vantant les mérites du général nigérien Abdourahamane Tiani, président de la transition. Ce nouveau passeport n'est pas sans intérêt pour les autorités de Niamey.
L'invité.
Yati Machouleni, c'est la campagne lancée par le groupe Compassion aux orphelins de Goma. Le but est de réunir des moyens matériels et financiers en vue de préparer la rentrée scolaire 2024-2025 en faveur de quelques enfants orphelins. Pour en parler, nous recevons comme invité Sami Munganga. Il est le coordonnateur du groupe Compassion aux orphelins. Il s'entretient avec Chris Mukand.
Sami Munganga, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on peut retenir du groupe Compassion aux orphelins?
En fait, Compassion aux orphelins est une structure caritative œuvrant de la ville de Goma, une structure de jeunes chrétiens qui s'unissent tout simplement pour offrir le bien-être social, éducatif, culturel et accompagner les orphelins dans le besoin urgent. Et c'est un groupe qui œuvre aussi dans l'entrepreneuriat de la jeunesse, mais aussi l'encadrement de la jeunesse.
Les objectifs, les visées de ce regroupement?
On a beaucoup d'objectifs. Entre autres, nous voulons premièrement offrir les orphelins les plus grands soutiens qu'ils peuvent avoir besoin. Entre autres, nous voulons créer un orphelinat pour héberger les orphelins. On ne veut pas vraiment les laisser dans les familles d'accueil. Mais aussi, nous voulons créer les sources de revenus pour la jeunesse, pour que la jeunesse soit vraiment bien outillée. À ces derniers temps, nous observons les jeunes qui font des choses qui n'ont pas de sens parce qu'ils ont manqué l'encadrement, ils ont manqué le soutien financier. Alors nous voulons vraiment faire quelque chose à cette jeunesse pour que nous ayons vraiment une jeunesse dynamique et forte.
D'accord, peut-être que nous allons revenir encore sur le fonctionnement de votre structure, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la campagne Yati Machouleni. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça?
Comment nous sommes des swahilophones et on a voulu faire ça toujours en swahili. Yati Machouleni. On ne veut pas vraiment faire ça comme étant une activité. Nous voulons faire ça comme un projet. Parce que si on devrait faire ça comme une activité, on devrait juste distribuer les kits scolaires aux orphelins et ils devraient revenir au cours avec les kits scolaires. Mais on n'a pas voulu juste distribuer parce que même si on devrait distribuer, s'il n'y a pas la prise en charge scolaire, ils ne devraient pas poursuivre les cursus scolaires. C'est par là qu'on a dit faisons ça comme Yati Machouleni pour dire les orphelins aussi ont droit à étudier, ont droit aussi à vivre pleinement comme les autres enfants parce que nul n'a voulu être orphelin. Yati Machouleni, c'est quelque chose qu'on va faire pour soutenir la scolarité des orphelins, mais aussi les donner les kits scolaires. Et on commencera avec les kits scolaires, les fournitures scolaires, mais aussi on va supporter la charge scolaire de ces orphelins.
Alors, ça va se passer concrètement comment? Vous avez de l'argent dans un compte et vous voulez acheter des fournitures scolaires à ces enfants orphelins et les prendre en charge?
On n'a pas vraiment beaucoup de choses. On est en train de faire des petites souscriptions, les dons. Il y a ceux-là qui sont en train de dire, moi, avec les 18 cahiers que je vais faire à mon enfant, je vais aussi donner 2 ou 3, 4, 5 cahiers pour vraiment soutenir les orphelins. Au lieu que j'achète 1 giga d'un mois de 10 dollars, laisse-moi vraiment sacrifier les 10 dollars là de giga et soutenir même avec un cahier, deux cahiers pour remettre ses enfants au banc de l'école.
Donc vous êtes sûr que vous allez prendre en charge tous les orphelins qu'il y a sur la ville de Goma par exemple?
Avec tous les orphelins de la ville de Goma, on aura vraiment du mal à y arriver. Mais l'année passée, on a commencé avec 10. Cette année, on ira avec 15. Et petit à petit, on sera en train de progresser. On sera en train d'améliorer les nombres. Et un jour, nous croyons qu'on va prendre même 200, voire même 1000. Parce que avec le futur, on peut même vouloir avoir une école où mettre des enfants pour qu'ils étudient aussi comme les autres enfants.
Vous les sélectionnez où, ces enfants?
Ces enfants sont sélectionnés suivant des critères. Premièrement, il doit être un orphelin de père ou de mère. Aussi, cet orphelin doit habiter dans 3 quartiers, soit Katoi, Kasika ou les quartiers Ndosho, parce que c'est là où l'école, là où on va le mettre, c'est là où se trouve cette école en question. L'orphelin doit être vraiment quelqu'un qui est vraiment stable moralement. Parce que si on peut prendre quelqu'un qui est un peu troublé, qui a un peu des problèmes, un peu de la gestion de soi-même, il peut créer des soucis au niveau scolaire.
Sami Munganga, l'important ici, c'est le message que vous allez passer par rapport à cette campagne.
Nous appelons toute la ville de Goma d'être derrière cette initiative. Quand un enfant reste sans étudier, imaginons un peu ce qu'il peut devenir dans 2 ou 3 ans. Vous avez un cahier, vous avez un stylo, vous avez un 10 $, vous avez un 100 $, vous avez tout ce que vous pouvez avoir, tout geste compte pour que ces orphelins étudient aussi comme tout autre enfant.
Sami Munganga, nous rappelons que vous êtes coordonnateur du groupe Compassion aux orphelins. Nous vous disons merci.
Merci.
Et c'est la fin de cette édition d'information mise en onde par Dieudonné Nyangasa Wanyangasa, Blaise Shindani l'a coordonnée sous la supervision et coordination de Peleki Pelamondo. À la présentation, Patience Ngalula Mbombo. Merci à vous tous d'avoir été des nôtres.